Le paddock RMC, Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, c'est le retour du paddock RMC, le warm-up du Grand Prix de Miami. Sixième manche de la saison de Formule 1, la Formule 1 qui part aux États-Unis pour ce Grand Prix qui est assez bling-bling d'ailleurs. Peut-être le plus bling-bling avec Monaco, en tout cas un bling-bling différent. On aura le temps d'en reparler, le Grand Prix des livrées. Je ne sais pas pourquoi Miami, toutes les écuries décident de sortir une voiture avec des couleurs différentes, avec une thématique différente. On va parler de tout ça, on va parler des spécificités de ce Grand Prix et de ce tracé de Miami. On va se pencher également sur Lando Norris. On va vraiment s'attaquer au dossier Lando Norris. Est-il définitivement trop faible mentalement pour pouvoir prétendre au titre de champion du monde parce qu'il a terminé le triple header dans un état psychologique, j'allais dire catastrophique. En tout cas, il y a de vraies interrogations qui se posent sur lui. Donc on va se demander s'il n'est pas déjà un peu mort, notre ami Lando Norris, quand on voit qu'Oscar Piastri a pris les rênes du championnat du monde. Et puis on va se demander si Lewis Hamilton a vraiment les armes pour retrouver un niveau décent avec la Scuderia Ferrari, parce que lui aussi il cherche des solutions, il en cherche beaucoup, pour l'instant il les a pas. C'est parti les gars pour ce warm-up du Grand Prix de Miami. On accueille quand même les ingénieurs parce que même le 1er mai ils sont là sur le pont, ils bossent. Louis Gerbier et Julien Absalon, salut les mecs.
Salut, salut.
Salut Nico, salut tout le monde.
Je sais pourquoi vous bossez les mecs, triple prime, c'est ça, 1er mai.
0 x 3,
ça fait combien les gars? Et ben voilà, on est bon en maths nous. Allez, c'est parti pour ce warm-up du Grand Prix de Miami. Grand Prix de Miami, on le disait, sixième manche de la saison. Louis, on en parlait là sur notre groupe WhatsApp qu'on a avec tous les gars du paddock RMC. C'est le Grand Prix des livrées. On ne sait pas pourquoi avant Miami, ils ont tous décidé de sortir une voiture. Là. Alors Ferrari, la Ferrari, elle est cataclysmique. Je sais que Louis, tu es très fan des livrées. Donc il faut que tu nous fasses un petit peu là, le topo de toutes les livrées qui sortent pour ce Grand Prix de Miami.
Bah oui, on a bien compris que Miami, on y allait pour autre chose que la F1. Le circuit était la bonne excuse pour se rendre dans un endroit où il y avait du business et du glamour et du paillette à faire quoi. Donc évidemment les équipes comme des écuries se mettent au diapason et jouent ça à fond. Donc on a vu en effet différentes livrées, différentes combinaisons, on va voir une ribambelle de casques spéciaux, j'en suis sûr. La plus surprenante étant quand même Ferrari qui, si vous ne l'avez pas vu, reste complètement rouge à l'avant et après est blanche et bleue. On se demande
horrible.
Pourquoi.
C'est non mais horrible hein.
Franchement, on ne voit pas du tout pourquoi ils ont fait ça. Ça n'a aucun rapport avec le fait que HP paye une fortune pour être sponsor titre. Ils ont mis les combinaisons, ils les ont matchées. Ça, c'est encore plus spécial, je dirais. Encore que, en soi, elles ne sont pas laides, mais je trouve que, bon... Ils avaient déjà fait des bleus une fois pour fêter... des combinaisons bleues pour fêter les je ne sais plus quel anniversaire récemment. On a vu Steak qui, de toute façon, c'est quand même leur fonction numéro 1 sur ce paddock, c'est de faire des livrées, parce que sinon, ils ne servent pas à grand-chose en ce moment. Donc elle est très sympa, une espèce de, comme si on avait jeté un pot de peinture verte sur une voiture noire. Donc ça c'est plutôt marrant, mais ouais c'est Miami. Je sais pas ce que vous en pensez, moi pas grand chose, je veux dire je regarde ça d'un œil assez distant.
Bah après non, tout, la voiture de Ferrari, effectivement, je la trouve horrible, mais bon, on comprend que c'est une activation qui est liée au sponsor titre HP qui paye beaucoup. Juste, moi, je comprends pas pourquoi ils vont pas à fond sur cette activation, c'est-à-dire de mettre la voiture tout en bleu, comme les combinaisons.
Ouais, à ce moment-là, ouais, je suis d'accord.
Voilà, c'est ça, surtout qu'ils en mettent un peu à l'avant, alors au niveau de l'aileron, en fait, parce que sinon, effectivement, le reste, c'est intact, rouge, et un peu sur les roues aussi. Mais oui, c'est assez étonnant, surtout que voilà, je pense que HP aimerait bien que finalement la voiture soit jolie et que les gens disent « Ah ouais, c'est quand même pas mal cette livrée spéciale », comme fait Racing Bull pour faire promotion d'un nouveau produit Red Bull, quoi.
Ah oui, j'ai oublié, donc du coup elle est rose et donc c'est un peu Alpine style, mais elle est marrante.
Un peu magenta, ouais, y a un truc pour le coup sur la Racing Bull. La steak est très jolie aussi. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté jus très marketing à Miami. Tu vois, nous, on entame le podcast, on parle même pas de sportif. On parle de tout ça. J'allais dire un peu de folklore, mais le sport est relégué au second plan. T'as l'impression limite juste avant de démarrer ce week-end.
Ah, le Grand Prix de Miami, clairement, il sert à ça. C'est-à-dire qu'il y a le Grand Prix entre guillemets sportif. Non pas que c'est inintéressant ce qui va se passer sur la piste, effectivement, mais pour vraiment le pur sportif, il y a le Texas, il y a le Grand Prix d'Austin. Bon, Las Vegas, c'est pas mal, mais c'est encore différent. Puis c'est surtout en fin de saison. Là, c'est vraiment voilà, le lancement du bling-bling. C'est l'équivalent de Monaco, mais pour les Américains. Et effectivement, on sait que la Formule 1 est allée à Miami d'abord pour le rayonnement sur le continent américain et plus précisément aux États-Unis pour le marketing. Et c'est évident qu'en fait, toutes les écuries cherchent à se montrer, cherchent à faire des impressions sur les réseaux sociaux. Au moins, ça participe un peu au folklore. Finalement, quand c'est Monaco, entre guillemets, on dit rien. Bon, bah voilà, ça se passe à Miami. Faut pas que ça se reproduise absolument tout le temps, quoi.
Non, mais c'est bien deux fois dans la saison. Voilà, Miami, Monaco.
La différence, que Monaco, c'est historique, alors que Miami, on l'a créé, ouais. on l'a créé toute pièce, il y a peu de temps, quoi.
Oui, mais ça va bien avec le lieu aussi, donc moi je trouve que ça passe. Je vous ai pas donné les gros temps forts du week-end quand même, les gars. La première séance d'essai, week-end de course sprint hein, d'ailleurs, donc première séance d'essai demain, vendredi. Je vous rappelle qu'on enregistre ce podcast le jeudi à 18h30. Les qualifs de la sprint, ça sera à 22h30 demain, vendredi. La sprint à 18h samedi. Les qualifs de la course en suivant à 22h samedi et puis la course le dimanche à 22h. Louis, maintenant qu'on a donné le programme, un petit mot sur ce tracé de Miami. Il y a eu 3 Pullman différents. À chaque fois, c'est pas le circuit qui nous hype le plus. Clairement, ouais. Quand on va à Miami, on est assez partagé sur ce tracé. Il y avait des problèmes d'adhérence au début. Ils l'ont resurfacé, je crois, l'année dernière, où il y a eu quelque chose comme ça. Bref, c'est un circuit qui est très neuf. C'est seulement la troisième édition. Et donc, il faut encore qu'ils prennent ses marques. Hein.
Oui. Et puis, il est un peu, comment dire, inégal, je trouve. C'est-à-dire que, pour le coup, je trouve que le premier secteur est assez intéressant. Au niveau pilotage, le deuxième est somme toute correct. Bon, la ligne droite elle est interminable, mais bon, voilà. Mais ce secteur 3, quand même, là je me refaisais le pole lap de Verstappen l'année dernière. C'est tu vois, le fameux enchaînement là de virages hyper serrés sous l'autoroute là, ça je trouve quand même vraiment pas ça terrible. Et ça casse un peu la dynamique du circuit, qui sans ça serait pas si mal en fait, parce qu'il y a quand même quelques zones de dépassement et les pilotes en disent plutôt du bien. Donc ça, je sais pas si c'est réalisable de changer ça à l'avenir, parce qu'il y a des contraintes tout simplement, parce que t'es en ville quoi, tu vas pas péter l'autoroute, mais c'est quand même vraiment dommage, je trouve, ce petit enchaînement là. J'aime pas, moi.
C'est un enchaînement qui ressemble comme si ceux qui ont fait le circuit s'étaient dit, bon, là, on a quand même beaucoup de lignes droites, de courbes rapides. Faut quand même un endroit où, juste pour que ça ressemble à un circuit visuellement.
Ouais.
Bon, moi, c'est pas pour être aigri, mais j'avais déjà dit que Jeddah, j'étais pas un grand fan, mais alors là, ça l'est encore moins. Puis en plus, il y a quand même cet aspect un peu parking autour. Enfin, c'est complètement un parking, mais. Moi, je n'aime pas du tout. En plus, c'est encore un tracé urbain. On a l'impression qu'il n'y a que ça, comme si c'était de l'IndyCar en ce moment. Bon, je suis vraiment... c'est pas ma cam.
Ouais, c'est autour du Hard Rock Stadium, hein, le stade de foot des Miami Dolphins. C'est vrai, c'est sur un parking, hein, clairement. Il est posé là-dessus, ce circuit. Tracé d'un peu plus de 5 km, le record du tour effectué par Verstappen. Et l'année dernière, c'est Lando Norris hein, qui s'est imposé, ouais. On s'en souvient, dans un scénario de dingue, avec des safety cars, une safety car en plus qui lui avait permis de repasser devant Verstappen qui s'était planté. Donc voilà, c'était sa première victoire en Formule 1 d'ailleurs à Lando Norris. Et c'est à Miami, les gars, l'an dernier, que tout s'est inversé dans le rapport de force un peu entre Red Bull et McLaren. C'est vraiment là que McLaren a amené des innovations et c'est là que voilà, tout ce rapport de force a commencé à s'équilibrer, Louis. Hein.
Ah ouais, c'est à partir de là vraiment qu'on a vu plusieurs choses. On a vu en effet que McLaren était là et que Sergio Pérez allait définitivement passer une nouvelle très mauvaise saison. C'est un circuit, il s'y passe des choses quoi. Je sais pas si c'est son placement dans la saison qui est après, hein, on va dire un peu après la première volée quoi. C'est là où on commence à dessiner, à définir plus concrètement les tendances globales des différentes écuries. Et McLaren avait pris le dessus à ce moment-là. Et clairement pour ce week-end, je les vois toujours. Toujours avec un temps d'avance, même si on voit que c'est quand même pas si simple dans la concurrence aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on revient un peu en arrière, moi je m'imaginais peut-être un parcours plus simple pour McLaren, et on voit que c'est pas forcément le cas. Et tant mieux pour nous, parce que ça rend ça un peu plus intéressant.
Ouais, et même André Astella, il l'a dit, Jules, hein, il l'a dit, André Astella, que ça se resserrait vraiment avec Red Bull. Alors, ça peut rester de la com et tout ça. On sait que, franchement, jusqu'à Barcelone, on voit quand même mal les McLaren être vraiment chatouillés. Malgré tout, comme le disait Louis, c'est pas aussi simple que ça pour McLaren.
Non, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'en fait, même si la McLaren est clairement domine, en fait, on a quand même l'impression que cette saison 2025, ça va être un peu du course par course. C'est-à-dire que si bon, Red Bull, globalement, ça se joue à c'est Verstappen et Verstappen. Si Verstappen, avec son équipe d'ingénieurs, arrive à trouver les bons réglages pendant les jours d'essai, il peut se passer vraiment quelque chose sur la piste. Il peut y avoir de la concurrence. Mais bon, quand même, il faut se dire que McLaren est devant, que le résultat attendu, c'est 1 et 2 pour McLaren. Mais McLaren ne peut pas se permettre, comme à une époque où Mercedes surdominait, ou même d'ailleurs Red Bull il n'y a pas si longtemps, de se dire, bon, bah, on sait qu'au 30e tour, on aura 30 secondes d'avance, un arrêt au stand gratuit, il faut faire attention.
Voilà, il faut qu'il soit vigilant, ça c'est une certitude. C'est la première fois, les gars, à Miami, que Oscar Piastri va prendre le départ d'une course en étant leader du championnat. On en a beaucoup parlé dans le débrief du Grand Prix d'Arabie Saoudite, qui est bien évidemment dispo sur toutes les plateformes. Si vous ne l'avez pas encore écouté, allez écouter ce débrief de Grand Prix, qui peut être un vrai tournant de la saison. Et du coup, on va ouvrir un petit peu cette page entre Piastri et Norris. Comment Lando Norris doit appréhender ce Grand Prix? Est-ce que vous pensez que psychologiquement il peut avoir la force de se remettre dedans? Il y a quelque chose qui n'est pas anodin quand même, il a donné une interview, il y a une interview qui est sortie sur le site officiel de la Formule 1, où il parle notamment de son mental, de son manque de confiance en lui qu'il avait dans les années passées. Il continue de dire, Louis Norris, qu'il peut gagner en étant différent des autres, en se flagellant un petit peu, en étant très dur avec lui-même, en disant qu'il n'a jamais critiqué son écurie, ses mécaniciens, parce qu'il n'est pas comme ça, ça fait partie de son éducation, et donc il prend tout sur lui. Est-ce que toi, tu le vois capable de rebondir et d'aller challenger Piastri, en fait, tout simplement, jusqu'à la fin de cette saison, avec cette mentalité-là?
Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué de se mettre au niveau de Piastri, qui lui a clairement la dynamique, n'a pas connu vraiment de coup dur ces derniers temps, donc vraiment il doit être pas loin de la pleine confiance. Et de l'autre côté, t'as Norris qui lui est tout sauf en confiance, et ce gap là il va falloir le réduire pour lui, et ça va être très compliqué, parce qu'il a plus que des performances à aller chercher. Je pense qu'il a un travail sur lui-même, et ça prend pas forcément des mois, tu vois, ça peut prendre des années pour certains. Donc ça peut vraiment lui coûter ça, alors que intrinsèquement, on ne saura jamais, mais intrinsèquement, il est très rapide. Donc c'est vrai qu'il faut régler ça. Alors je ne sais pas s'il s'entoure. S'il en prend conscience, s'il va opérer des changements, comme tu dis. Après, bon, quand tu parles des mécaniciens, je pense qu'en ce moment, c'est compliqué de critiquer des mecs qui te sortent la meilleure voiture du plateau. Mais il va falloir changer des choses. Je pense pas que ça se passe forcément en interne, mais que ça se passe entre lui et lui-même, tu vois. Ouais. Et que Il est dans une bonne écurie, une écurie qui lui a fait confiance et qui continue de lui faire confiance. Donc, il a tout aussi pour y arriver. Mais je pense que en fait, celui qui lui fait très mal est en Piastri parce qu'il est si fort dans la tête, lui, et qui se dit... Déjà que dans la voiture, sur un tour, il me bat régulièrement. Et en plus, tu as l'impression qu'il ne peut rien lui arriver dans la tête.
Ouais,
et
c'est ça, exactement ça.
Je pense que le côté hermétique, imperméable de Piastri doit être très déroutant quand t'es son coéquipier. Quoi.
Ouais, c'est exactement ça. Pour moi, en fait, Norris est face à un double problème. C'est-à-dire que Piastri a progressé sur le plan du pilotage. On savait que c'était un crack. Mais l'an dernier, par exemple, en qualification, ce n'était pas du tout ça. Là maintenant, il arrive à faire deux pôles, il est rapide en qualif, il est rapide en course, il a le sens de la course, et je pense que Piastri est passé, peut-être aussi que la monoplace de cette année lui convient mieux, et tout simplement, bah voilà, il grandit, et donc il se familiarise encore plus avec la Formule 1, et Piastri est peut-être passé devant Norris sur le plan du pur pilotage, sur le plan technique, et en plus de ça, Piastri ne montre aucune faiblesse sur le plan mental. Alors c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que les victoires, ça c'est forcément positif, on est premier, donc tout va bien, le ciel est bleu. Mm-hmm. Mais du coup, Norris, lui, il est en train de se demander, qu'est-ce que je fais de mal, comment je peux le battre, et en même temps, il est peut-être mentalement, il part d'un peu plus loin, et il se dit aussi que c'est la dernière année avant le grand Big Bang de la réglementation, donc c'est une course contre la montre, c'est peut-être sa seule occasion d'être champion du monde, et elle est en train de lui échapper au profit non seulement de son coéquipier, mais en plus, coéquipier qui est là depuis vraiment pas longtemps en Formule 1.
Piastri qui a une cinquantaine de Grands Prix au compteur, qui a gagné 3 des 5 premières courses de la saison. Surtout Norris, en fait, les gars, on a l'impression qu'il est encore dans une phase d'apprentissage, alors que ça devrait C'est plus ça, être le ouais. cas. Et il le dit notamment d'un point de vue mental quand il parle de sa saison dernière, des 6 derniers mois de la saison, où il dit j'ai énormément appris, je continue à apprendre, ce début de saison là en 2025 ça va m'apporter. Mais en fait il n'y a plus le temps pour ça, non les gars, il n'y a plus le temps d'apprendre là.
Ah ouais, là il n'y a plus le temps, t'es complètement lancé dans la dernière saison de la réglementation qui t'offre la meilleure des voitures. L'année prochaine il n'y a rien d'acquis, tu peux très bien reculer, alors peut-être même en tant que deuxième voiture, mais ça sera déjà, faudra en battre 3 au lieu d'un pour être champion du monde. Donc non, et c'est cette année, comme l'a dit Jus, comme tu l'as dit, c'est pas l'année ou jamais, parce que si l'année prochaine finalement il est toujours dans une voiture très compétitive, il aura peut-être d'autres chances, mais là clairement ils sont un peu seuls avec une marge d'avance, et face à Piastri, ça va être très 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 compliqué, et il faut réagir vite, parce qu'en fait, comme le dit Jus, comme c'est un cercle vicieux, si chaque Grand Prix tu t'en sors pas, tu fais quelque chose de pas clair, t'es pas bien, ça va t'amener à l'être encore moins le suivant, et même si t'as 20, sa chance c'est qu'il y a 24 Grands Prix, il a le temps de se reprendre, mais moi je commence à douter.
Ouais, surtout qu'en plus Oscar Piastri, mine de rien, alors ça c'est vrai qu'on l'avait pas interprété comme ça, ce signal là, mais là maintenant je trouve que la question elle se pose. McLaren a prolongé Piastri jusqu'en 2029, et Zak Brown, dans tous ses choix, ça a toujours été ultra confiance en Norris a toujours été responsabilisé comme le pilote numéro 1, mais cette prolongation de Piastri et ce qui est en train de se passer là, ça montre quand même que même du côté de McLaren, on est peut-être en train de se dire « Bon, finalement, le pilote là pour l'avenir, c'est peut-être pas Lando Norris, c'est peut-être vraiment Oscar Piastri. »
Oui, non, mais effectivement, mais officiellement, l'avantage, c'est qu'ils n'ont jamais trop pris position, même l'an dernier quand c'était chaud, entre Norris et Piastri, enfin, même si on sent quand même qu'il y avait un avantage Norris.
Oui, mais tu vois, Norris, il le sait, il le sent quand même, ce qui se passe, il le ressent, lui.
Non, bien sûr, et du coup, forcément, pour l'avenir, pour la prochaine réglementation et même celle d'après, c'est évident que là, on est en train de se dire, mais en fait, Piastri, oui, c'est bien le crack annoncé, oui, il peut être champion du monde dès cette année, et il montre qu'il peut être multiple champion du monde s'il garde ce mental et ce tel niveau de pilotage. Donc, oui, pour McLaren, ça peut effectivement entrer en considération, surtout avec les prochains mercato qui vont arriver. Peut-être qu'on peut se dire, si jamais Norris est approché, peut-être que c'est pas si grave si on le laisse partir et qu'on met tout sur Piastri.
Norris qui dit dans cette interview là sur le site de la Formule 1 qui dit que bon, cette mentalité ça a un avantage aussi sur tout ce qui est remise en question et travail sur lui-même, et il dit que ça lui a vraiment apporté, mais il dit qu'il y a vraiment aussi un côté négatif, Louis, c'est qu'en fait à force d'être trop dur envers lui-même, bah, il s'enfonce en fait, et même lui des fois il a l'impression qu'il est vraiment pas bon, alors que quand il regarde les perfs, c'est pas le cas. Donc il a vraiment conscience, et tu sens que c'est un pilote et un personnage un peu torturé, parce qu'il parle de ça en Formule 1, mais également chez lui dans sa vie de tous les jours. Tu sens que c'est un gars qui fait un vrai boulot au niveau mental et qui a vraiment un gros boulot à faire dans ce domaine.
Ouais, ça a l'air d'être un peu le bazar dans sa tête, mais Charles aussi se flagelle pas mal et très dur envers lui-même, mais a quand même, je trouve, une résistance à la pression un peu supérieure, même si lui aussi a fait des grosses erreurs à des moments vraiment dommageables. Donc c'est pas forcément impossible avec ce caractère d'être très performant non plus. Donc à lui de trouver les clés. Je sais pas si vers qui ou vers quoi il doit se tourner pour ça, parce que je pense qu'il faut pas qu'il se tourne trop vers Piastri, justement, parce qu'ils sont pas faits du même bois. Mais ce qui m'étonne, moi, c'est plus que le jeune Norris face à Daniel Ricciardo avait un discours piastrien, si je puis dire, en disant ouais. Moi, j'ai, enfin, Daniel, je l'aime bien, mais moi, j'ai aucun souci à lui mettre 6 dixièmes. C'est comme ça. Voilà, très cash, assez dur, mais sans être virulent, sans vouloir être méchant, mais quand même très, très ferme, très dur, très pilote de F1 finalement. Et j'ai l'impression que ça, du coup, il l'a perdu un peu, ces dents qui rayent le parquet, je ne sais pas. Alors
c'est pas la même position d'être d'un côté outsider et de l'autre.
Évidemment, on est d'accord là-dessus. Voilà, c'est peut-être tout simplement la pression, la responsabilité qu'émane de son poste d'aujourd'hui, qu'il n'arrive pas à gérer. Et que si à la place de Piastri, il y avait, un Alonso, un Verstappen, enfin un gars où il pourrait encore être considéré un peu comme l'outsider, peut-être qu'il serait très bon, tu vois, c'est peut-être ça. Mais alors ça, du coup, ça va être compliqué.
Ça lui va peut-être bien, en fait, cette position un peu de deuxième derrière Piastri, les gars, Norris, pour avoir un peu moins de pression, peut-être.
Mais pas cette année. Cette année, parce que tout le monde s'attend à ce qu'il soit champion du monde, en fait. C'est la McLaren est devant. On a dit que oui, parfois, elle peut être challengée par Red Bull ou par Mercedes, d'ailleurs. Mais non, le truc, c'est qu'on attend de lui, cette année, qu'il soit champion du monde, qu'il mette le ballon au fond des filets. Et en fait, ce ne sera peut-être pas lui. Donc là, c'est pas vraiment... S'il est derrière, c'est pas en mode « je suis outsider », c'est plus « c'est un échec ».
Ouais. C'est je me rate, quoi. Mais après, moi, je trouve que c'est pour faire. Tu disais, faut mettre le ballon au fond des filets, mais pour les amoureux de cyclisme, c'est un peu Bradley Wiggins, Christopher Froome en 2012. C'est-à-dire qu'on a Lando Norris, donc t'as toute l'équipe, la Sky, qui veut que Bradley gagne le Tour de France. Donc là, c'est McLaren qui a construit Norris pour gagner le championnat du monde. Et puis finalement, dans leur chemin, ils recrutent une pépite, et la pépite, elle va plus vite que l'autre, quoi, tout simplement. Et finalement, à la fin, bah, c'est la jeune pépite qui gagne 4 Tours de France quand l'autre en aura gagné qu'un. Mais il en a gagné un, donc à Norris de prendre le championnat du monde avant qu'il soit trop tard.
Très belle comparaison. J'aime beaucoup. Non, très fort. Très fort. Comment vous voyez un peu le rapport de force à ce week-end, Ju, entre Piastri et Norris? Bon, c'est compliqué. Hein. Là, on est un peu dans de la Formule 1 fiction. Mais Norris, il faut vraiment qu'il se remette en selle. Là, après les 3 semaines de compétition d'affilée où on l'a vu en souffrance, là, c'est même dans le message envoyé, en fait. On a besoin d'avoir un Lando Norris offensif, agressif sur la piste et qui ressort un peu les crocs à Miami.
Ah bah de toute façon, il faut qu'il montre qu'il a pleinement confiance dans la voiture. Bon, ça, en vrai, ça va. Mais il faut tout simplement qu'il se libère. Mais en même temps, il ne s'agit pas de prendre non plus des risques inconsidérés. Parce que, mine de rien, ça reste encore le début de saison. Ce n'est que le 6e Grand Prix. Alors oui, ça peut aller vite. Mais bon, s'il vaut mieux, tant pis. Il vaut mieux faire être à 18 points. Enfin, Piastri qui fait 25 et Norris 18 que de faire 0. Donc c'est à lui de trouver la limite. De toute façon, c'est dur de trouver la solution à la place de Norris, parce que soit ça va venir, soit c'est mental, Et dans ce cas, bah, là, c'est vraiment une histoire d'introspection ou autre. Soit il va retrouver le sourire par une performance. Et peut-être que le Grand Prix de Miami lui convient mieux. Peut-être qu'il a passé la semaine à travailler sur le simulateur pour comprendre, à lire la télémétrie. Et il va peut-être revenir plus fort là maintenant.
Alors, s'il espère que Piastri fasse un zéro, quand même, j'ai regardé les stats là, c'est monstrueux, hein, la fiabilité d'Oscar Piastri. 51 Grand Prix, 3 abandons seulement.
Ouais, non, mais c'est pour ça, et c'est pour ça qu'il ne faut pas que Norris, lui, fasse zéro.
Ouais, t'as raison. Il ne peut pas se permettre de faire zéro sur une course parce que l'autre, il va rien lui lâcher. Bon, parlons un peu de Lewis Hamilton également, les copains, parce qu'on n'en a pas trop parlé dans notre dernier débrief du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Lewis Hamilton qui se morfond un petit peu là, autour de la 5e, 6e, 7e, 8e place depuis le début de saison. Il y aura une course sprint à Miami. On rappelle que son seul gros fait d'armes, c'est d'avoir remporté la première course sprint de la saison. C'était en Chine. La question que je veux vous poser, les mecs, c'est qu'on n'arrête pas du côté de Lewis Hamilton et de Ferrari de dire qu'on bosse, on essaye de trouver des solutions au manque de performance. Comment combler ce manque de performance, Louis ? Pour toi, quels sont les gros chantiers pour Hamilton ?
Alors là, c'est compliqué parce que je commençais à avoir du mal à les identifier parce que ça commence à faire long, cette espèce de blues. Cette semaine, on a vu George Russell rappeler habilement qu'il avait battu en gros Hamilton 2 ans de suite.
Tu penses que c'est pas que lié à Ferrari en fait ?
Ouais, je pense qu'il est un petit peu trop loin, tu vois ? C'est-à-dire que le fait qu'il arrive dans un endroit où Charles est depuis très longtemps et que Charles est aussi un très grand pilote, bah, je lui aurais dit, tu vois, allez, je te laisse quelques dixièmes, mais là, je le trouve trop loin et tout le temps surtout en fait. C'est-à-dire que ouais, si tu enlèves cette course sprint, il y a rien nu quoi, il y a rien nu et puis presque dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire assez insipide. Il y a pas eu d'émotion vraiment. Et j'ai l'impression que ça vient aussi un peu de lui quoi, tu vois.
Ouais. Jules, tu partages ce que dit Louis, et sinon, au niveau un peu plus technique, quels sont les axes d'amélioration pour Hamilton là, avec son équipe ?
Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que bon, au niveau du mental de Lewis Hamilton, par exemple, c'est difficile à dire là aussi, parce que c'est peut-être lui seul qui peut estimer qu'il est, il a besoin de se remettre dedans ou autre. Mais par contre, il y a une analyse très intéressante d'Alex Brundle, un analyste chez Sky, je crois, qui en fait expliquait que Lewis Hamilton est en difficulté sur le freinage par rapport à Leclerc. Quand on compare les télémétries, en fait, on voit que Lewis Hamilton appuie un peu trop sur le frein et que finalement ça déstabilise un peu tout le comportement de la Ferrari et que c'est ça qui lui fait perdre 1, 2, 3 dixièmes par rapport à son coéquipier. Et c'est, comment dire, Lewis Hamilton en a parlé d'ailleurs dans une interview, il disait j'ai besoin de m'adapter un peu plus, de comprendre la Ferrari, et en fait ça se matérialise vraiment, on peut le voir sur les données. Et en fait le problème c'est que Lewis Hamilton il a 40 ans et il a toujours eu un style de pilotage très particulier, en tout cas propre à lui, dans une écurie qui roulait pour lui, Mercedes. Et en fait c'est à se dire après 12 ans passés chez Mercedes, est-ce que Lewis Hamilton est capable de changer son style de pilotage qui l'a fait multiple champion du monde ? Et c'est difficile à dire parce que est-ce que l'âge l'empêche ? Est-ce que juste il ne sait pas du tout le faire ? C'est ça qui ressort là de ces derniers jours.
Ça peut être le plus gros four de l'histoire de la Formule 1, là, cette histoire, non ? Vu comment c'est parti.
Il n'a pas signé juste pour 2025. Il y a 2026. Oui. Et 2026, potentiellement, la voiture lui convient un peu plus et le moteur Ferrari est très bien et c'est champion du monde, par exemple.
C'est vrai. Mais il y a quand même un vrai doute aussi sur ces pilotes qui ont plus de 40 ans en termes de perf et qui peuvent gagner des courses. Enfin, on voit aussi que c'est compliqué pour Fernando Alonso. Bien sûr que sa monoplace y est pour beaucoup et Hamilton aussi. Mais malgré tout, il y a, une vraie problématique qui se pose de ce point de vue-là. Ce qui est assez surprenant, ouais, Louis t'en parlait, c'est quand même de le voir traîner un petit peu comme ça, là, son blues, son spleen dans le paddock, lors des interviews. Lui qui a été très combatif dès qu'il est arrivé, où tu sentais qu'il amenait une énergie. Là, il ne l'a plus du tout. Et ça, c'est assez surprenant parce que ça fait quand même que 5 courses qu'il est chez Ferrari. Ça fait 4 mois, le gars qui est là. C'est rien, en fait, en termes de temps. Donc, s'il est déjà blasé, tu te dis comment ça peut se terminer cette saison ?
Ouais, ouais. Alors, ça peut peut-être partir de tellement d'espoir mis en cette nouvelle aventure pour lui et que bah, peut-être juste beaucoup de déception de ne pas y arriver. Je pense aussi que même lui, même la star qu'il est, ça doit l'atteindre de décevoir en quelque sorte. Tu vois, il se dit, j'ai quand même tous les regards rivés sur moi et j'y arrive plus, quoi. Et pour un gars qui a tant gagné, ça doit aussi être compliqué à gérer. Maintenant, est-ce que tu sous-entends que passé la quarantaine, il y aurait des aptitudes physiques qui baissent et sûrement que peut-être qu'il y a il manque parfois quelques dixièmes dans la réaction ou quoi. Tu sais, je m'y connais pas du tout, mais je crois que dans le gaming, les gars ont dit que leur prime, c'est 18-19 ans, quoi.
Ouais, au niveau réflexe, vision, prise d'information.
Voilà, des choses comme ça. Donc, j'imagine que ça doit jouer quand t'as 40 ans et qu'il faut réussir à compenser avec toute leur science et l'expérience qu'ils ont acquise en course depuis tant d'années. Mais Hamilton, moi, j'espère vraiment que ça ne va pas se terminer comme tu dis, comme ça, parce que ça serait trop triste. On espère une bonne voiture. Et paradoxalement, en fait, ce qui peut le rassurer, c'est que Leclerc aussi galère, tu vois. Il galère moins, il est plus rapide, mais ils sont pas au top dans la voiture. Ils disent pas oh là là, elle est trop bien, elle roule toute seule, machin. Non non, c'est compliqué. Faut se battre. Il faut aller chercher chaque dixième. Leclerc avait même employé l'expression. Il avait pas dit je vais plus vite que la voiture, mais il avait dit je suis allé plus au-delà de son potentiel, quoi. Donc c'est vrai que quand tu fais ça, normalement t'es jamais très loin à un moment de la mettre dans un mur, quoi, dans la saison. Donc il y a tout ça à gérer, et en espérant qu'avec une voiture peut-être un peu mieux née, un peu plus simple et peut-être un peu plus Leclerc style et Hamilton style, ils nous fassent des merveilles. Vous savez que j'attends que ça, mais là moi je vois pas le soleil tout de suite là chez Ferrari.
Et ceci dit, il y a quelque chose d'un peu rassurant, ou alors une forme de rappel, c'est que bah voilà, en fait, même en étant champion du monde, en fait, quand tu débarques dans une nouvelle écurie avec une culture complètement différente, que effectivement tu as pris de l'âge, donc t'es forcément a priori un peu moins bon physiquement, et que en plus cette monoplace, elle est pas au top, elle est un peu complexe, il y a des problèmes, il y a des difficultés, et c'est pas si simple finalement. C'est un rappel que c'est quand même un sport exigeant, qui c'est de la haute précision, hein, et que le temps d'adaptation et les différences de culture ou autre, ça représente 1 ou 2 dixièmes sur la piste. Manque de peau, on est en fin de réglementation où toutes les performances convergent. Un ou deux dixièmes, ça peut faire 5 places, voire plus.
Il y a peut-être un effet loop de ça aussi. C'est que 2 dixièmes peuvent te coûter tellement cher, te faire rater même parfois une Q2 ou quoi, que peut-être que c'est pas si grave. Ouais.
Et globalement, les gars, sur la perf de Ferrari là, à Jeddah, en Arabie Saoudite, on a vu quand même qu'en termes de rythme de course, ça allait beaucoup mieux et qu'ils pouvaient faire quelque chose. Est-ce que c'est de nature à vous rendre un peu optimiste sur ce qui va se passer là, dans les semaines à venir, Jus?
Ce qui est rassurant, c'est qu'en plus, la performance à Jeddah, elle est aussi liée à la gestion des pneus de Charles Leclerc. Ça veut dire que la Ferrari est en mesure de faire des longs relais et de ne pas perdre un dixième par tour ou un demi-dixième par tour. Et c'est ça qui est vraiment rassurant, c'est que du coup, l'aéro, ça s'améliore. Donc, les premières modifications qui ont été apportées sont plutôt concluantes. Il y a une bonne base pour travailler, pour envisager la suite.
Ouais, c'est à partir du Grand Prix d'Espagne, hein, à Barcelone, que visiblement tout, euh, tout a prévu de s'inverser pour la Scuderia, en tout cas dans leur plan 2025. Là, c'est un peu ce qu'ils ont ciblé. Et il y aura un gros package d'évolution. Mais c'est compliqué. C'est vraiment compliqué par rapport aux perfs de l'année dernière. Bon, les gars, il faut qu'on se pose la question quand même au bout de 5 courses. Mais le début de saison de Ferrari, il est sur votre échelle à vous, il est quoi? Il est décevant. Très décevant, c'est un énorme flop. On en est où?
Décevant, je dirais.
Moi, je demande la dissolution de l'écurie. Non, décevant. Voilà. Bon, je dirais pas jusqu'à très, parce qu'en fait, tout le monde est dans un mouchoir de poche et bon, mais c'est vrai que. Ouais, c'est décevant clairement par rapport aux attentes, par rapport aux transferts, par rapport aussi au dire d'eux-mêmes, de Ferrari, de Vasseur ou d'autres à la sortie des essais. On s'attendait tous à quelque chose de supérieur à ça, quoi.
Et puis il y a cette impression que par rapport à la saison dernière, devant, tout le monde a un peu progressé. Et même Red Bull avec les difficultés, quand on compare à la fin de saison dernière ou le moment où vraiment c'était difficile, il y a un peu de mieux. Mais Ferrari, c'est comme si ça avait stagné. Et c'est après, voilà, effectivement, c'est comme tu as dit, c'est un mouchoir de poche, mais c'est ça qui est peut-être un peu frustrant chez la Scuderia.
Ben, je lisais des chiffres, pardon, là. C'est compliqué, hein. C'est
faux week-end, départ.
Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait, là? J'ai fait un faux départ. Qui c'est qui a fait un faux départ la dernière fois, là, qui était devant sa position sur la grille?
C'était Lando, justement.
C'était Lando, ouais. J'ai fait une Lando. Ouais. Ouais. Terrible. Je lisais un truc, là, où il disait que la Scuderia avait gagné 8 dixièmes en perf pure par rapport au premier Grand Prix de la saison, là. Donc, ça veut dire que sur les 5 courses, ils ont amélioré leur vitesse, leur potentielle vitesse de 8 dixièmes, mais que par exemple McLaren a progressé de 1 seconde 359. Et donc au rang des progressions, tu vois, Ferrari ne pointe qu'au 6e rang par rapport à toutes les écuries. Donc c'est ce qu'on disait, les gars, c'est qu'en fait, on a des fois l'impression que ça évolue dans le bon sens, mais tout le monde progresse, surtout sur cette dernière année de réglementation. Hein.
Oui, voilà, parce que tout est relatif. Hein, quand on dit ça stagne, évidemment, s'ils avaient vraiment stagné, fait un plus 0-0 en performance, ils seraient tout en bas. Donc le truc, c'est que voilà, tout le monde progresse. C'est ce qui se passe quand au bout d'une réglementation, mais il faut suivre le bon train et pas être à côté, quoi.
Bon, qu'est-ce que vous attendez de ce Grand Prix de Miami, les mecs, un peu vos pronos? Il y a également Pierre Gasly, là, dont on a peu parlé, mais qui était sur une super dynamique, qui s'est fait pousser par Tsunoda en Arabie Saoudite, qui peut prétendre à remettre son Alpine dans les points. Il y a pas mal d'enjeux sympas. Isaac Hadjar aussi, qui est très bon. Qu'est-ce que vous voulez voir et quels sont vos pronos? Louis, l'heure du prono.
Le roi du prono. J'avais suivi Julien la fois dernière et je t'ai envoyé, on sait, je t'ai jeté avec moi dans le ravin, quoi, parce qu'on avait complètement tout faux. Donc là, me suis pas, je te le dis. Moi, je vais dire. Alors Gasly dans les points, ça c'est impératif, parce que vraiment frustrant la dernière fois. Pour le vainqueur, je verrais ça comme une demi-surprise, je dirais Lando Norris pour le coup, parce que là je vois bien les 10 jours l'avoir remis un petit coup de boost quand même, malgré tout. Et puis, qu'est-ce que je vois, le podium, il y aura Verstappen et un Mercedes, voilà.
Ok.
Pour le coup, moi, je vois pas d'autre raison de dire autre chose que Piastri devant, victoire, avec je retente encore le Norris en deuxième place, hein, parce que bon, il sait qu'il a raté sa qualif à Jeddah, mais bon, Norris, voilà, deuxième. Et puis après, finalement, c'est la troisième place qui est dure à pronostiquer. Je dirais, Verstappen, mais le truc, c'est que par contre, j'ai très envie de... En fait, c'est bizarre, les Mercedes, parce que finalement, elles sont très performantes, mais bon, on les place jamais, parce qu'en fait, on se dit qu'il y a le talent de Verstappen. Donc, j'ai surtout envie de voir, encore une fois, la course d'Antonelli, parce que je me dis, vraiment, pour un rookie, c'est très, très fort ce qu'il fait. Alors, je suis finalement presque encore plus impressionné par Hadjar, qui a beaucoup moins de roulage en monoplace qu'Antonelli. Mais non, je me dis, Antonelli, il est au rendez-vous avec la Mercedes, il fait ce qu'on lui demande, il a les résultats presque attendus. Donc là, j'ai envie de voir ce que va donner Antonelli par rapport à Russell à Miami. Là.
Ouais, je vous donne les positions d'Antonelli depuis le début de saison. 4e en Australie, 6e en Chine, 6e au Japon, 11e à Bahreïn. Mais bon, il y avait des circonstances de course qui ont fait qu'il s'était retrouvé un peu dans le trafic. Et 6e en Arabie Saoudite. Donc, il est
avec des
ultra...
stratégies pas forcément faciles à appliquer en plus. Hein, donc,
Exactement. Et ultra performant, ultra performant. Bon bah merci les gars, je note tous vos petits pronos. Peut-être que dans le prochain warm-up on se fera un petit bilan là des pronostics. Je vais peut-être me pencher sur ça, faut que je me réécoute les épisodes, je me suis pas tout noté. Mais bon, bah, ça va te faire mal mon Louis.
Mais oui, t'avais donné Piastri au dernier Grand Prix, c'est ce que j'avais donné aussi je crois. Donc en fait c'est bon. C'est ce qu'on avait pas la suite.
Ah ouais,
vous avez donné pas de Piastri
sur le reste alors. Ouais.
Ah bah ouais, c'est plus bah le
attends,
problème c'est que Norris
bon,
il est. Ouais, je crois. Hein. C'est juste que bah Norris forcément il a cassé tous les pronos.
Ouais, je me conditionne.
T'as fait une Lando. Norris, t'es trop dur avec toi.
Ouais, ouais, voilà, exactement. Je suis là à force de qu'on me dise je suis nul, bah tu vois, je le crois et puis après.
Dramatique. Merci les gars, je vous rappelle que vous pouvez nous noter sur toutes les plateformes de téléchargement, hein, les 5 petites étoiles, c'est super important pour nous. Vous pouvez partager le podcast, vous abonner, activer les petites notifications, qu'on se retrouve lundi avec Jean-Luc Roy et avec toute l'équipe pour débriefer le Grand Prix de Miami et que la course c'est dimanche à 22h à suivre sur RMC bien sûr. Ciao les mecs, bye bye.
Salut.
Salut.
Le paddock RMC.